Il a ouvert ses petits yeux noirs et quand il a vu la souricette, elle était belle. Oh, il l'a prise dans ses bras et il l'a fait tourner, tourner, tourner. Il lui a fait des bisous, des bisous, des bisous. Ils se sont aimés tellement fort qu'aujourd'hui, ils s'aiment encore.
C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. I still have a dream. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Alors, qui l'eût cru, hein? Né d'un désir de partager notre émerveillement pour le conte, la tradition orale, le langage symbolique, l'imaginaire. L'émission C'est pas pour dire fête cette année ses 15 ans. Des artistes, des universitaires, des enseignants, des thérapeutes, 15 années de rencontres, de témoignages, de discussions profondes avec celles et ceux qui font ou ont fait la vitalité de l'art du récit d'aujourd'hui. Il nous reste tellement à apprendre, à rencontrer, à partager. Que si le loup n'y est pas et si les petits cochons ne nous mangent pas, on va continuer encore quelques années. C'est avec Florence Ferrin que nous entamons cette saison numéro 15. Florence est née en Touraine dans une famille au métier lié à la terre et à la forge. Maréchal Ferrin, forgeron, quincaillerie, blanchisseuse. Cette vie rurale, simple et humaine, a profondément nourri son imaginaire et son chemin vers le conte. Elle a su développer un art à la fois sensible, poétique et généreux, adressé aux tout-petits comme aux adultes. Formatrice engagée, elle contribue à faire vivre et transmettre le conte en France de manière vivante et créative. Angèle Gauduchot la rencontre au Festival de contes de Vassivière. Entre deux chapiteaux, les deux conteuses devisent « Tranquille ».
Florence Ferrin, donc toi t'es conteuse.
Ben oui, pareil. J'ai commencé en 1989, donc ça fait 35 ans.
Ça fait 35 ans que tu racontes des histoires.
Ouais. Et au début, je pense que j'étais pas faite pour ça. J'ai découvert le conte dans le cadre d'une formation plutôt liée au tourisme et à l'animation d'activités touristiques. À l'époque, j'étais animatrice en village de vacances. Et je suis partie un an en formation à Cannes avec l'Institut National des Animateurs, de Formation des Animateurs de Collectivité, l'INFALC. Et il se trouve que Jean-Louis, le directeur de la formation, connaissait bien Henri Gougaud, qui l'a invité pour venir nous parler du conte pendant 3 jours, je crois, et faire un spectacle pour les stagiaires de ces formations INFALC. Et ça a été une étincelle à ce moment-là.
Ah oui.
Ouais. Ouais. Vraiment une étincelle. Et il y a quelque chose en moi qui... Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors que j'étais quelqu'un de très timide.
Ouais.
Très, très timide. Très mal dans ma peau. Pas du tout à l'aise. Pas sûre de moi. Pleine de questions. J'avais un conte à ce moment-là qui parlait d'un olivier, de l'âme d'un olivier qu'on croyait mort, tu sais, dans l'hiver 56 ou 7, je ne sais plus, qui a décimé beaucoup d'oliviers de froid. Un hiver qui a été très difficile en Provence. Ouais. On était plusieurs à travailler cette histoire-là, d'un olivier qui raconte son histoire, qui est en fait l'histoire de celui qui allait l'abattre. Quoi. Parce que les oliviers, ça ne meurt pas comme ça.
Tu te souviens de l'effet que ça t'a fait de raconter ?
L'effet, je pense que c'est d'être en situation d'émettre quelque chose, ouais, et puis de recevoir quelque chose que je n'avais pas imaginé, en fait. Ça a été une découverte.
Et que c'était un dialogue en réalité.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup plu. Et rapidement, je me suis retrouvée à répondre à des demandes de contes. Parce que dans le tourisme, on peut aussi raconter des légendes.
Oui, bien sûr. Ouais.
Raconter une topographie, la toponymie, enfin tout ce qui a trait à la petite histoire des lieux aussi. Et du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Et à l'époque, du coup, moi, je ne voulais pas forcément être conteuse. Hein. J'étais guide conférencière à Briançon. Ouais. Et j'ai commencé à faire des visites contées. Ouais. Et à m'intéresser au collectage d'une manière patrimoniale, on va dire, puisque c'était le patrimoine aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment eu mon public, en fait. Mon public, entre guillemets. C'est là où, en fait, régulièrement, j'ai eu l'occasion de raconter à des gens qui venaient faire des visites comptées.
Est-ce que après ce moment-là, cette première étincelle avec Henri Gougou, t'as eu envie de te former
En fait, oui, assez rapidement. Il y a eu une première étape où je me suis retrouvée sur scène avec Muriel Bloch et Agnès Chavanon. J'avais deux contes à mon répertoire. Et il se trouve qu'elles avaient été invitées parce qu'il y a des personnes qui faisaient partie de la formation, qui ont organisé cet événement et qui trouvaient que ça passait plutôt bien pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée sur scène et à raconter le conte des vieux qu'on jette au torrent.
Ouais.
Devant un parterre de personnes âgées, parce qu'on était dans un village de vacances hors saison, avec que des personnes âgées. Et Muriel qui me dit, dis donc, tu sais bien les choisir, tes
histoires.
Et moi qui n'ai pas osé lui dire que j'avais plus que celle-là, puisque la deuxième, je l'avais déjà racontée.
Ouais.
Donc voilà, tu vois, c'était drôle. Et après, oui, il y a eu des rencontres, il y a eu des stages... avec Agnès Dumouchel, des rencontres avec Anne Lopez, Agnès, Françoise Dieppe, avec qui on a créé un groupe de travail à quatre personnes, où on se regroupait.
Tu habitais dans ce coin-là alors ?
Oui,
du côté
sud de la France.
Sud de la France.
Mmh. Ouais. Et on se retrouvait plusieurs fois par an pour travailler ensemble. Mmh. Rencontres avec Didier Kowarski, avec Pepito, avec Gigi... Et puis surtout ce groupe qu'on a constitué qui s'appelait les Louves et où on voulait être libre. C'est-à-dire qu'on avait décidé de travailler ensemble et ça n'allait pas dépendre d'une organisation associative, ni de subventions, ni d'aides. On investissait pour notre travail et ça c'était vraiment chouette.
Il y a plein de gens pour qui le conte c'est quelqu'un qui prend un bouquin puis qui lit à côté d'une cheminée. En fait c'est quoi le travail d'une conteuse ? Ça consiste en quoi ?
Il y a eu plein de découvertes. C'est-à-dire que pour moi au départ, dans mon imaginaire de début, là où le conte de l'Olivier, c'était savoir l'histoire. Après, il y a eu les rencontres avec Pepito, Didier. Il y a eu aussi plusieurs week-ends avec Henri, où on s'est formé. On était tout un groupe dans le sud à le faire venir sur plusieurs week-ends. Et où là, j'ai découvert l'écriture.
Oui,
donc en fait, moi, au départ, il y a eu cette idée qu'il fallait savoir le conte. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça. après, il y a eu finalement quelque chose dont j'avais un peu honte. Je travaillais mes histoires, mais que à l'oral. Et j'avais un répertoire et j'avais écrit nulle part.
Et tu avais un peu honte de ça ?
Oui, jusqu'à ce que je lise La poétique du conte de Nicole Belmont, qui m'a beaucoup rabibochée avec ça. Parce que c'est vrai que cette étape où on a travaillé avec Henri, pour moi, l'écriture, elle est venue à ce moment-là. Mais très, très vite, je me suis rendu compte que c'était super d'écrire, mais qu'il fallait reconfronter cette écriture à une oralité et à la rencontre avec le public. Et au départ, oui, j'avais un petit peu honte dans le sens où je me disais, je travaille pas assez, ou je prends le public en otage, ou... Et où finalement je ne considérais pas le travail qui se faisait quand
même. Qui était en train de se faire, oui.
Qui se faisait quand même. Mais les deux sont restés dans mon travail, dans la façon dont je travaille mon répertoire. Il y a des contes que je n'ai jamais écrits qui font partie de mon répertoire, des contes qui sont là depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans, et que je compte toujours avec autant de bonheur. Et puis d'autres où j'ai travaillé une écriture, où j'ai ciselé. J'ai affiné, j'ai peaufiné, et toujours en le remettant à l'épreuve de l'oralité.
Oui, ce n'est pas les mêmes.
Non. Donc voilà, pour répondre à ta question, pour moi, plus j'ai avancé et plus j'ai considéré les contes comme une rencontre avec des motifs. Dans notre jargon, hein, ça nous parle, ça, les motifs des contes, et où j'ai rencontré... ce que ça me faisait moi à l'intérieur, comment ça résonnait dans ma vie de femme d'aujourd'hui, et que c'était toujours au cœur de... c'était toujours en questionnement.
Tu peux dire pour des gens qui ne sauraient pas, comment tu définirais un motif ?
Pour moi, un motif, c'est quelque chose qui va imprimer... une image ou une émotion dans l'inconscient de la personne sans forcément qu'elle s'en rende compte et qui va résonner dans sa vie d'homme ou de femme contemporain, contemporaine. Par exemple, je sais pas, je prends le miroir de Blanche-Neige de la Reine, qui peut être la mère ou la belle-mère suivant les versions, mais qui n'est pas forcément le miroir, et qui peut être un lac, qui peut être son reflet dans le regard des autres, qui peut être... C'est un motif, et après, on en fait ce qui nous parle
souvent,
le plus.
Souvent, on le retrouve, on pourrait dire ça aussi, un motif comme un motif dans une tapisserie, ce serait comme un détail qu'on peut retrouver dans d'autres contes qui n'ont rien à voir, mais tu as quand même ce motif-là.
Ouais.
Je me suis demandé plusieurs fois, d'ailleurs, si, en tout cas pour moi, je suis presque sûre que c'est vrai, que quand je raconte une histoire, en fait, il y a l'histoire, mais ce que je raconte, ce qui me donne envie de raconter, c'est un ou deux ou trois motifs dans une histoire.
Ouais.
Plus que l'histoire elle-même, tu vois, plus que le...
Et bien là, il y a La fille du diable qui m'est tombée dessus, il n'y a pas longtemps, c'est ma dernière création, là, avec Irmine, qui est violoniste. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait de la même manière. Mmh. Elle fait du violon trad, donc du coup elle travaille sur le collectage aussi. Mmh. Elle, particulièrement celui de Tierso. Et en fait, il s'est imposé ce conte-là. Mais bon, ça fait après beaucoup de parcours. Je pense que j'aurais pas choisi La fille du diable au début.
C'est pas que dalle, c'est une sacrée histoire.
Ouais. Je me serais pas coltiné La fille du diable au début de mon parcours. D'abord parce que les contes merveilleux me faisaient peur
au
début. Que comme beaucoup de conteurs débutants, conteuses débutantes, j'allais plutôt vers soit du conte facétieux, soit du conte de sagesse, parce que ça me permettait de penser que moi-même, j'étais sage, ou que je possédais la sagesse des contes que je racontais.
Et puis, il y a quelque chose de plus... Il faut être d'accord de pas tout maîtriser avec un conte merveilleux, parce que tu ne maîtrises pas tout.
C'est ça. Et c'est la rencontre avec le public qui réécrit l'histoire tout le temps. Et qui fait qu'en l'offrant, en l'ayant travaillé en amont, évidemment, parce qu'il y a notre travail qui compte en amont quand même, On n'arrive pas juste avec des motifs qu'on étale, on le sait. Mais pour moi, il y a tout ce travail qu'on fait en amont qui nous permet après de proposer quelque chose à l'oral devant un public. Et c'est l'écoute du public qui nous permet de continuer d'écrire l'histoire, en fait. De continuer de l'entendre.
C'est pas pour dire, conversation de deux conteuses au Festival de Vassivière. Comment se constitue-t-on un répertoire ? Florence partage avec nous sa recherche de la perle rare.
C'est quoi tes répertoires, tu dirais ?
Alors au début, je cherchais des contes. Comme beaucoup de personnes, on cherche la perle rare. C'est Anikis qui disait ça, je l'avais lu dans un... C'est au début, ça passait beaucoup par l'âge d'or, par les conférences de l'âge d'or. Et moi, j'aimais beaucoup ce que disait Anikis. J'avais lu aussi beaucoup de choses. Je cherchais au début, quand j'ai commencé.
Elle dit qu'elle a toujours raconté le même conte.
Ouais. Et en fait, elle parlait de perles rares. Mmh. Tu sais qu'on cherche la perle rare. Et au début, je cherchais des contes que j'allais pouvoir raconter. Et après, j'ai cherché ce que je voulais dire. Et là, pour La fille du diable, par exemple, ça s'est imposé. Mmh. C'est celui-là qui est venu me dire, j'ai envie d'être racontée. Quoi. Mes répertoires, je pense que je l'ai beaucoup cherché au début. Et ça s'est confirmé avec la rencontre de manière plus proche avec le travail d'Henri sur l'écriture. Parce qu'en 2002, j'ai commencé vraiment à installer mes contes dans un décor. C'est-à-dire que j'avais choisi des contes. Mmh. En fait, j'étais partie sur l'idée que quand j'étais enceinte, je comprenais tout. Je saisissais tout des mystères de la vie. Et il y a eu un moment dans ma grossesse où...
Tu as eu l'impression de...
Ouais, j'étais connectée, quoi. Ouais. Mmh. Et j'ai eu envie de dire ça à travers des contes. Donc j'ai choisi tout un tas de contes, dont certains que j'ai écrits complètement. Mmh. Et je les ai écrits, mais je les ai installés dans mon village. C'est-à-dire que j'avais fait une carte comme ça de mon village de naissance, mon village de Touraine. Ouais. Je suis tourangelle d'origine, logée sur un droit, à côté de Loche, pour ceux qui connaissent. Et j'avais installé... En fait, tous mes personnages, je les ai installés dans le village.
Dans le village.
Ouais. La boulangère, elle était là. Là, il y avait Albert et Milo. Enfin, tout ça. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée de faire ça. Ouais. Parce que du coup, je les ai ancrés dans quelque chose qui était très...
Super concret.
Et dans un souvenir.
Avec des souvenirs, ouais.
Souvenir imaginaire. Mmh. Et moi, j'aime bien faire... Quand je travaille avec des gens qui démarrent, j'aime bien les faire travailler sur le souvenir imaginaire. Réel ou imaginaire, on s'en fout. Réel ou imaginaire, de toute façon, un souvenir, il est toujours imaginaire.
De toute façon, oui, c'est ça. Voilà. De plus en plus, on se dit qu'on a reconstruit la réalité, en effet. Ouais.
Ouais. Et donc, il y a ça. Et puis après, il y a eu un moment... Bon, j'ai eu plein de contes. Hein. J'ai jamais compté le nombre de contes que j'avais dans mon répertoire. Il y en a qui sont toujours là, il y en a qui ont été de passage. Et puis un jour, j'ai répondu à un appel à projet dans le Pays de Grasse. Il y avait une résidence de 3 mois qui était proposée pour une artiste ou un artiste conteur, conteuse, pour écrire un conte. Et moi, je me suis dit, ça fait un petit moment que je vis en Provence. Est-ce que moi, je peux compter la Provence ? Puisque ça fait longtemps que j'y vis. J'ai commencé à faire des recherches. Et j'avais déjà voulu compter la Provence en amont.
Parce que la commande, c'était ça quand même.
Pas forcément. Non. C'était pas forcément d'être sur le territoire. C'est D'accord. moi qui l'ai proposé. Okay. Et en fait, quand j'ai cherché l'équivalent du Joisten dans le Dauphiné, je ne sais pas si tu connais le travail de Charles Joisten, le travail de collectage assez tardif quand même, je n'ai pas trouvé l'équivalent en Provence. Et pour cause, il n'y avait pas. En fait, on n'avait jamais fait de travail de collectage au sens scientifique en Provence. Sauf qu'au moment où je réponds à cet appel à projet, en 2014, juin 2014, il était sorti juste quelques années avant le recueil des Contes Merveilleux, travail de collectage de Jean-Luc Domingue, qui est toujours vivant, hein, monsieur, qui a été enseignant-chercheur à Draguignan et qui a fait ce travail-là. Et il a fait le travail sur les Contes Merveilleux, le travail sur les Contes des Ogres et Diables Dupés, enfin tout dans le catalogue raisonné de la rue Ténès, quoi. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien ça. Et je travaille là-dessus. Et je vais dans le haut pays. Non, mais il faut que je te raconte ça.
Mais raconte.
You know how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. I love you forever and forever. Love you with all my heart. I love you whenever we're together. Love you when we.
Je réponds à l'appel à projet et je suis retenue. Donc je sais que je vais partir pour trois mois. En haut Pays de Grâce, dans un petit village qui s'appelle Saint-Auban. Et j'arrive là-haut et j'arrive avec beaucoup d'avance parce que j'avais rendez-vous à 15h. Et j'arrive par la route de Saint-Julien, par le haut pays, par la route des Alpes de Haute-Provence. Et j'avais faim, il y avait une auberge en bas dans le petit village de Soleilla. Je m'arrête, je mange. Des chasseurs, des joueurs de boules, ça rit, ça chante dans l'auberge, enfin l'ambiance quoi. Mmh. Et à la fin de mon repas, toc, il y a un petit grillon qui vient sauter sur ma table. Je dis waouh, je suis pas toute seule. Le petit grillon, je m'amuse à le faire grimper comme ça sur ma main. Il y a un monsieur à côté qui me voit faire, un chasseur, qui dit « Oh, vous l'avez adopté ?» Moi, je lui dis « Oui ». Il me dit « Comment il s'appelle ?» Plus tard, je ne m'attendais pas du tout à cette question, tu vois. Et je dis « Bah écoutez... »
Je vais lui demander.
Juste à côté, qui me faisait du gringue aussi, tu sais, une jeune femme seule, jeune, plus trop, mais quand même. Et qui dit « Oui, moi je sais comment il s'appelle, Abel. » Et si vous le mettez dans votre corsage, et je serai toujours avec vous, parce que moi, je m'appelle Abel. Je dis ça, mais c'est le début de mon histoire. Je commence avec ça, tu vois. J'arrive dans le village de Saint-Auban, où je suis accueillie par la communauté d'agglomération du Pays de Grâce. Et là, je rencontre Pascal, qui me dit « Oh, moi, je connaissais un monsieur avant dans le village. Il s'appelait Gaston. Et alors, Gaston, il faisait des paniers. Et il les vendait pas. Il dit toujours « Oh, moi, mes paniers, je les vends pas à des cons, hein. Mes paniers, je les donne. Comme ça, je sais à qui je les donne. » Oh, putain, je me dis « Mais lui aussi, il va être dans mon compte. » Tu vois, et tout le long de la résidence, ça a été ça.
Ah, c'est super.
Jusqu'à la présence d'un alchimiste au XVIIIe siècle dans le village, et où je me suis intéressée à la présence de ce Jean Trouin, il s'appelait.
Dont il restait des traces.
Oui, dont un monsieur a fait une thèse. Mmh. Et en fait, bah, tout ça s'est mis dans ma création. Et puis, il s'est passé un drôle de truc. C'est qu'une nuit, tous les personnages de mes contes se sont rencontrés.
En rêve ?
Devant moi.
Ouais.
Et en fait, c'est devenu un seul et même conte. Comme des pièces de puzzle. Ça m'a un peu fait peur.
Peur pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui t'est...
Ça me dépassait.
Ah. Parce que ça se faisait sans toi ?
Ouais. Et c'était la première fois que j'assistais au fait que ça se fasse.
Parce que là, ce que tu racontes depuis l'histoire du grillon, c'est que, quand même que ça. C'est-à-dire des choses qui se font. Et ça donne l'impression que le travail d'une conteuse, en tout cas là, consiste juste à voir que ça se fait. Et à l'entendre et à prendre le temps de,
ouais, de dire « ah oui, ça y est ». Jusque là, je ne l'acceptais pas forcément. J'avais l'impression que moi, il fallait que je maîtrise les choses. Alors que là, les choses se faisaient. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas travaillé. Au contraire, j'avais beaucoup travaillé en amont.
Bien sûr.
Mais moi, j'assemblais les pièces du puzzle. Mmh. C'est comme si ça attendait que moi, je vienne pour faire ce travail-là.
Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if eyesight be dim. Cold love is like to earth's return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou me thus abuse it still, seeing that she will right thee never? If thou canst not overcome her will, thy love will be thus fruitless ever.
C'est pas pour dire, conversation de deux conteuses au festival de Vassivière.
Dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois cette surprise et cette peur, tu disais, de qu'est-ce qui se passe, que tout d'un coup ça se passe et j'assiste à ce qui est en train de se passer, disons. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre chose qui est la question, on pourrait dire, de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, je viens raconter une histoire d'un pays dans lequel je ne suis pas née. Qu'est-ce que c'est ma légitimité pour faire ça?
En Provence, c'était une vraie question quand même. Ouais, c'est comme si moi j'arrivais en Bretagne pour faire le même travail, si tu veux. Parce qu'en Provence, il y a eu quand même la présence de Mistral, Roumani, Matthews,
bien sûr,
qui se sont emparés de ce patrimoine populaire et qui en ont fait une écriture beaucoup plus savoureuse, on va dire, et presque savante, quoi. Enfin,
oui, puis il y avait un projet politique derrière ça aussi.
Oui, et du coup, il y a eu aussi, et c'est Jean-Noël Pélène qui le dit dans la préface du bouquin de Jean-Luc Domingue, hein, de son collectage, c'est qu'en fait, c'est comme si le peuple avait été dépossédé d'une matière qui lui appartenait et qui finalement, qu'on retrouvait dans les almanachs provençaux, mais écrit d'une manière beaucoup plus léché, beaucoup plus littéraire, quoi.
Est-ce que je comprends que au moment où les choses s'assemblent tout d'un coup devant toi, là, tu te dis, ok, ça me donne comme la permission de raconter ça et de restituer ça?
En fait, c'est ce que j'ai appris au fil du temps dans mon évolution de conteuse. Parce qu'au départ, quand on démarre, on a des croyances. Et encore plus à l'époque où moi j'ai démarré, si tu veux. Parce que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu vois tout ce qu'on transmet avec la grande oreille, tout le travail, tous ces gens qui font comme toi des transmissions, il y a des réflexions, il y a des tables rondes, mais ça, à l'époque où moi j'ai démarré, je cherchais ça.
Bien sûr.
Et c'était, il y avait pas, il y avait le Clio qui existait, qui était encore à Chartres à l'époque. Il y avait le CMLO, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais je ne sais pas si le CMLO, je ne sais plus les dates. Mais après, voilà, tu vois, je cherchais de la rencontre et de la. Et ce groupe des Louves, dont je t'ai parlé tout à l'heure, m'a amené ça. Parce que entre Françoise Dieppe, qui avait du bagage, Anne Lopez, qui avait aussi son bagage à elle, et Agnès Dumouchel, qui elle avait arrivé d'un autre parcours, elle arrivait du Royard Théâtre. Et puis moi qui arrivais avec mon intuition populaire, j'ai envie de dire. Ça, c'est le mot qui me vient. C'est difficile d'affirmer que ton intuition, elle est juste quand on ne t'a pas appris.
Oui, oui. Et puis on vit quand même dans un dans un monde, dans une société où l'intuition est quand même pas la chose la plus valorisée du monde. On est dans un pays super rationnel quand même.
Enfin, qui... Oui.
Tu vois.
Oui, après, ça n'empêche pas de chercher. Tu vois, moi, je n'ai jamais eu la prétention de savoir. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. C'était de continuer de chercher tout le temps. Moi, le mot qui m'accompagne depuis le début, et ça, c'est pareil, je n'ai pas réfléchi avant de le dire, mais c'est faille. Ça, j'aime bien la faille qu'il y avait dans le dos de la vieille, là, dans l'histoire de Pierre. Le mot faille me plaît parce que j'aime bien rencontrer les gens à travers ma propre faille. Et la leur, c'est pas possible avec tout le monde, parce qu'il y a des gens, c'est trop difficile, il y a une carapace qui est énorme, mais moi j'aime bien la rencontre, quand la faille, après sans mise en danger.
Puis d'une certaine manière, c'est là aussi où il y a du jeu, donc...
Et ça, moi j'ai toujours eu cette approche-là avec les contes, dans ma vie aussi, comme ça, en rencontre avec les gens, avec toute la fragilité que ça propose. Parce que quand on sait qu'on a une faille, qu'on est faillible aussi, ben on est fragile aussi. Mais c'est ce qui peut faire une force.
On prête au personnage de Nietzsche, Zarathoustra, cette fameuse phrase « Il faut porter encore en soi un chaos » pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Florence, elle, dirait qu'il faut porter encore de la fragilité pour se connecter aux histoires et à ceux qui les écoutent.
Quand je t'ai demandé si tu étais d'accord pour que je t'interviewe, tu m'as dit « Ah, ça va être la deuxième fois en pas longtemps, parce que j'ai discuté avec un jeune homme pour un podcast qui s'appelle Souffle, au pluriel. »
Avec Joël.
Joël. Joël Foulé,
ouais.
Et qui m'a touchée en me disant « Tiens, j'aimerais bien que tu me parles de la fragilité. »
Ouais.
Justement.
Ouais. Oui. J'étais étonnée qu'il me propose ça, parce que moi, c'est pas forcément quelque chose que je dis comme ça à tout le monde. Tu vois, je veux dire, là, on parle d'un sujet qui nous concerne toutes les deux, et notre approche du conte. Mais quand Joël m'a fait cette proposition de m'interroger sur la fragilité, je me suis dit « Waouh !» On se connaît, c'est pas tant que ça, au moment où il m'a proposé ça. Ça m'a touchée, ouais. Parce que je me suis dit, bah tiens, il m'a reconnue dans cette particularité-là, dans cette couleur-là.
J'ai l'impression que ça parle aussi de cette discipline. C'est quand même il y a quelque chose de fragile, on pourrait dire. C'est paradoxal, parce qu'en même temps, ces récits ont traversé des centaines et des milliers d'années, mais en même temps, il y a quelque chose qui parle de l'instant et de la rencontre, comme tu disais tout à l'heure, et qui est, du coup, fragile.
Ben, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vais écouter des conteurs, des conteuses. J'aime bien... rencontrer la personne. Si c'est super bien écrit, bien léché, bien lisse, mais que du coup il y a quelque chose qui m'empêche, c'est comme un espèce de vernis qui m'empêche d'accéder à... Je pars toujours un peu frustrée. Parfois je suis plus touchée par des... Même souvent, je suis plus touchée par des paroles débutantes, tu vois, en formation. J'entends des choses parfois qui sont extraordinaires. Mais c'est du premier jet. Après, notre travail, c'est de le refaire.
C'est bien ça.
Et c'est pas toujours évident.
C'est bien ça.
Ces personnes-là, elles n'ont pas non plus conscience de la qualité de ce qu'elles font.
Revoir un latte coeur, je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux.
peux plus de t'attendre.
Tu dirais qu'une conteuse, un conteur, est-ce que tu dirais que c'est un art politique ? Par rapport à ce que tu disais sur la fragilité, c'est pas si simple d'ouvrir cette faille-là et de laisser les gens rentrer dans ces endroits-là, enfin de partager ça. Si tu le fais, j'imagine qu'il y a une intention.
Je dirais malgré soi. C'est de la politique malgré soi. Et c'est de la bonne politique. Pour moi, ça va avec le chemin de vie. C'est-à-dire que bah, c'est pas moi qui le dis, hein, mais les contes sont un chemin et ils nous accompagnent aussi. Moi, ça m'a beaucoup changé, le conte. Les contes m'ont beaucoup accompagné, m'ont beaucoup changé. Mais comme toute création artistique, elle évolue et elle boulègue, comme on dit dans le Sud.
Elle boulègue.
Elle bouléguée, ouais, quand ça te bouscule, quoi. Ah. Des fois, ça te bouscule et ça te fait avancer. Moi, il y a des contes qui m'ont. Ouais, qui m'ont boulégué dans le sens
tu te souviens,
qui m'ont bougé
desquels?
Ben tu vois, j'ai une version d'Hansel et Gretel que j'ai appelée Jeanne ou Jeannette, où je me suis rapprochée des versions traditionnelles donc plus longues avec toute la course poursuite à la fin de elle n'est pas jetée dans le feu par Gretel et ça s'arrête là. Il y a toute la course poursuite où elle est jetée dans la marmite, moi je l'appelle la méberouette.
C'est une course-poursuite magique ou c'est
une course-poursuite non, elle n'est pas magique comme dans Vasilissa ou d'autres versions. Enfin, il n'y a pas, on jette le peigne, ouais, on jette le foulard et tout ça et les transformations. C'est une course-poursuite avec aide. Et pour moi, c'était important parce qu'en fait, quand j'ai lu plusieurs versions et que dans la version des Grimm, Gretel, elle pousse.
La vieille
dans la Gothel, c'est dans je me souviens plus du nom, tu vois, dans le feu
ouais.
Je me suis dit, pétard, il faut être sacrément fort pour pousser une vieille dans le feu quand on est une petite fille. Et moi, pour moi, Gretel, elle a 10 ans, quoi,
c'est ça,
tu vois,
c'est ça.
Et ma Jeannette, je la voyais pas faire ça, quoi. Je me suis dit, mais t'imagines, pour sauver ta vie, il faut que tu aies la force de pousser la vieille dans le feu. Et quand j'ai vu que dans les versions traditionnelles, il y avait cette course-poursuite où elle la pousse dans la marmite. En fait, dans ma version, elle a la force de... Sa peur lui donne le courage de trouver une
de
bonne idée.
Ça.
Et de lui dire, moi, je ne sais pas comment on fait pour porter une marmite. Et la méberouette qui est là-haut, qui dit, oh, c'est pourtant pas bien compliqué de porter une marmite. Elle descend à la cave, elle lui dit, bah, tu vois, t'as une poignée d'un côté, t'as une poignée de l'autre, bah, tu la prends, puis tu... Et comme moi, ma méberouette, elle n'a qu'un œil sur la tête. Elle a la tête qui est baissée comme ça pour voir. Parce que son œil, il prend la poussière, donc elle est obligée de baisser la tête pour bien voir. Elle se retrouve la tête baissée au-dessus de la marmite. Et là, il y a juste à la pousser. Et vite, vite, elle s'en va avec les deux clés. Et là, il saute sur le cheval blanc de la méberouette qui va aussi vite que le vent et qui est tout ferré d'or et d'argent. Chemin des jardiniers qui leur disent on essaiera de la ralentir, des faucheurs, on essaiera de la ralentir, et une dame lavandière qui est de l'autre côté de la rivière
qui leur lance le drap.
Et quand arrive la méberouette, parce qu'après donc, elle les fait passer, quand arrive la méberouette, elle lui dit « Dame lavandière, fais-moi traverser avec ma gorette », parce qu'elle est sur le dos de sa gorette. Et la dame lavandière, bah, c'était une bonne femme. Et donc elle dit « Oui, bien sûr que je vais t'aider ». Et donc elle lance son drap et à ce moment-là, tous les dans le public, ça fait « Ah non !» Et en fait, elle tire le drap pour que l'autre, elle se noie avec sa corette. Et ça me plaisait plus, tu vois.
Toutes ces aides-là.
Ouais. Et alors cette histoire, pourquoi elle m'a bousculée? Parce que c'était ça, ta question.
Oui, c'était ça, oui.
Elle m'a bousculée parce qu'en fait, je l'ai ancrée dans mes souvenirs imaginaires. Et pourquoi je l'ai appelée la mère Berruette? Parce que dans mon village, et paix à son âme, il y avait une dame qui s'appelait la mère Berruée. Et je pense, en tout cas dans mon imaginaire de petite fille, et avec la distance et le temps qui avait passé, je pense qu'elle me faisait un peu peur. Et que la mère Berruette, bah, du coup, c'est devenue la sorcière de mon histoire.
Écoutez encore et encore, comme les enfants, pour comprendre une histoire de l'intérieur. Les contes, à l'inverse de ce que l'on croit généralement, ne dessinent pas un monde tout rose, mais un monde vivant, où de grandes forces s'affrontent, s'ajustent, se marient. C'est pas pour dire aujourd'hui, avec Florence Ferrin.
Tu dirais par exemple qu'il y a des histoires que tu as comprises après les avoir déjà racontées, en tout cas qui t'ont...
Ah oui.
De cette manière-là aussi, ça t'a travaillé?
Je pense que si je continue de les raconter, c'est que je ne les comprends pas, en fait. Je pense qu'il y a une part de moi qui a besoin de les entendre encore et encore et encore et encore. Et ça le fait avec le merveilleux. Parce que les autres histoires, tu peux prendre plaisir à écouter une blague, un conte facétieux, un conte de randonnée où tu vas reprendre la petite ritournelle et où tu t'éclates. Ça, c'est la joie. Mais l'impression qu'on peut avoir dans le sens d'imprimer des choses à l'intérieur avec les contes merveilleux, c'est autrement plus...
Les gens, ils te voient pas, mais je te vois faire le geste. Tu dis là, il y a quelque chose de puissant là dans ton geste aussi.
Ben ouais, tu vois Pierre qui parle de la faille là, de la vieille dans son dos. Pour moi, ça ouvre le merveilleux.
Ah, bien sûr.
Et l'écoute, elle n'est pas la même.
On voit bien.
Elle est... Moi, j'ai compris ce que c'était le merveilleux la première fois que j'ai compté du merveilleux à des enfants et où je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok, c'est ça.
Il y a un petit quiproquo peut-être par rapport à cette histoire, parce que quand on dit merveilleux, souvent les gens pensent jolie, mignon, fée, dans le sens tout rose, tout. Et en fait, on parle là de contes violents, avec des épreuves souvent terribles. C'est pas de la gnognotte, ces histoires-là.
Non. Ben, en fait, oui, les gens qui disent « Ah oui, c'est des contes merveilleux, donc c'est pour les enfants », c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais oui, ça ouvre la porte de l'inconscient, en fait, de ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où moi, je trouve ça passionnant de voir que depuis des millénaires, on raconte la même chose, en fait.
Oui.
On n'arrête pas de faire de la cuisine avec les mêmes motifs, mais qu'on en a toujours besoin et que on en aura toujours besoin.
Il était une fois une petite maison au bord de la grande forêt. Dans la petite maison vivaient la maman, le papa et leur petite fille, Mouna. Le papa de Mouna avait beaucoup de travail. Toute la journée, il était dans la forêt et coupait les arbres et rangeait les troncs et ramassait les branches et les brindilles. Il partait au lever du soleil, il travaillait. À midi, il s'arrêtait un peu pour manger et il travaillait encore et encore et encore et il rentrait au coucher du soleil. La nuit, papa n'allait pas dans la forêt. Quand le soleil se couchait à l'horizon, papa rentrait à la maison. Et quand il rentrait,
C'était l'heure pour Mouna, sa petite fille, de se coucher aussi. Comme le soleil. Bisous, papa. Bisous, maman. Et hop, au lit. Mais un soir, le papa de Mouna n'est pas rentré. Pourtant, le soleil était couché. Alors Mouna ne voulait pas s'endormir. « Maman, il est où, papa? Pourquoi il n'est pas là pour me faire le bisou ?»« Il est dans la forêt, Mouna. Il a beaucoup de travail et il n'a pas terminé. Il faut qu'il avance. » « Mais la nuit, il travaille pas normalement. Et la nuit, il fait noir. Il va rien voir dans la forêt. » « Mais cette nuit, Mouna, il y a la lune. Elle est toute ronde, tu sais bien. Quand elle est comme ça, elle est claire comme en plein jour. Comme ça, ton papa peut travailler. »« Ah oui. Bon, d'accord. Allez, dodo, Mouna, bonne nuit. » Et maman a fermé la porte de la chambre. Voilà. Mais Mouna ne dormait pas.
« Maman, j'ai soif !»
Maman avait l'habitude. Elle est revenue avec un petit verre d'eau qu'elle a donné à Mouna. Mouna a bu, maman a repris le petit verre. Et maintenant, dodo Mouna. Et maman a refermé la porte de la chambre. Voilà. Mais Mouna ne dormait pas.
« Maman, tu me chantes ma grande chanson ?»«
Bon, d'accord, je te chante ta chanson, mais la moitié seulement, et après, dodo, Mouna !» Mouna a pris sa ninille, son doudou. Elle l'a serré bien fort contre sa joue, et elle a écouté la chanson de sa maman.
Conversation au Festival de Vassivière avec la conteuse Florence Ferrin et on en arrive à la fameuse question. Sujet éternel de notre enquête au pays des conteurs, qu'est-ce qui fait que les êtres humains se rassemblent autour d'histoires?
On a mille moyens de raconter des histoires, des moyens hyper technologiques, des moyens... Je sais pas, y compris la réalité virtuelle que j'ai pas encore essayé, mais il paraît que c'est quand même scotchant et ça. Mais qu'est-ce qui fait que là, au 21e siècle, on a encore envie, besoin de se retrouver entre êtres humains et d'écouter et de raconter des histoires avec ces moyens tellement simples de un corps, un cœur, une voix.
Ben, la faille, le non-pouvoir, l'impuissance, devant, si d'un coup il y a une rafale de vent, t'es obligé de faire avec.
Ah, c'est joli, oui.
Tu vois, je veux dire...
Tu crois que c'est ça qu'on vient chercher.
Là pour de vrai, quoi. On est là pour de vrai et il peut se passer n'importe quoi. Y compris quelqu'un qui réagit dans le public, ou les enfants, par exemple, qui vont d'un coup, eux, ils n'ont pas les mêmes conventions, et des fois, ils sont tellement à fond dans l'histoire qu'ils sont avec toi, quoi, en parole aussi, et ils ne sont pas là pour t'embêter, et l'idée, ce n'est pas de leur demander d'être sages. Peut-être de ne pas prendre plus de place que ce qu'il faut, mais en tout cas, ils sont là.
C'est touchant, cette idée de se dire que peut-être c'est ça qu'on vient... comme conteuse, conteur et comme public, qu'on vient toucher un peu du doigt cet endroit de faille, de non-pouvoir, de on fait avec ce qui est et on s'habitue à ça, et ça, avec la mort aussi, on pourrait dire, avec le fait que voilà, c'est.
Écoute, je vais donner un exemple, un truc qui m'a époustouflée. On a des moments comme ça incroyables. Un jour, j'étais, je sais plus, pas très loin de chez toi, je pense, dans le coin là-bas.
Dans l'ouest.
Ou dans l'ouest de la France, je crois. Je n'ai pas toujours très bonne mémoire des lieux. Dans un festival. Et puis, il se trouve que dans le public, il y avait tout un groupe de jeunes. Mais jeunes, des cités, quoi, tu vois, qui étaient venus en groupe avec leurs éducateurs. Et je raconte ma version de la princesse gourmande de figues. la princesse Gouludfig qu'il faut guérir. Et ça finit avec l'épreuve des 100 lapins qu'il faut garder dans la prairie derrière le palais. Tu connais ce motif-là,
okay, oui,
quoi.
Okay.
Et du coup, à chaque fois, le roi, il prolonge, puisqu'en fait, il ne veut pas.
Il ne veut pas marier sa fille
avec un pauvre type, quoi.
Ouais.
Et à un moment donné, donc, il a fini grâce au sifflet de la vieille lui a donné en remerciement de sa politesse et de sa gentillesse. Il a réussi à garder les 100 lapins dans la prairie derrière le palais pendant 15 jours. Sauf qu'au dernier jour, c'est le roi qui, déguisé en paysan, vient lui voler un lapin, enfin lui acheter un lapin. Et lui, il lui dit, mais mes lapins, ils ne sont pas à vendre, ils sont à gagner. On connaît ce motif-là. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les gagner? Et là, il lui fait embrasser le cul de son âne.
Oui.
Ce qui fait beaucoup rire tout le monde. Et le roi, lui, repart avec un lapin.
Mais il croit qu'il a gagné.
Malgré le coup de sifflet qui permet au lapin de quitter les mains du roi, le roi a serré tellement fort qu'il reste une oreille du lapin dans sa main. Et le lapin est parti avec une oreille en moins. Ce qui fait qu'au soir du 15e jour...
Il manque une oreille.
Et pop, 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 le roi, il dit, non. Et là, il y a une jeune femme de 16 ans, 17 ans qui se lève. Et t'auras pas ma fille en mariage. Qui se lève comme ça, qui dit, c'est pas juste. Son éducateur qui se tourne vers elle et qui lui dit, chut. Je dis, mais oui, elle a raison. C'est pas juste. Mais elle était tellement dans le conte qu'elle se lève et elle dit, mais non, mais c'est pas juste, quoi.
Mmh.
Et en effet, moi, je fais réfléchir le roi, puis il lui fait faire une autre épreuve qu'il réussit, puisqu'il faut remplir 3 sacs de vérité, et que la vérité, il la connaît.
Il a quand même embrassé le sud.
Il sait que le roi a embrassé le cul de son âne. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que moi, je ne l'avais pas prévu, ça. Mais c'était tellement juste.
Ouais.
Et c'était tellement bonheur de voir qu'elle était à fond dans le conte. Après, je ne vais pas jusqu'à au funambulisme non plus que Didier proposait, Didier Kowarski, où des fois il se cassait la figure. Lui, il parlait de synchronicité et d'être à l'écoute. Peut-être que moi, de compter, ça me permet d'être présente à ce que je fais. Peut-être c'est comme ça que je suis présente au monde, en fait. Parce que sinon, peut-être je passerais à côté de ma vie, si je comptais pas. Mais je ne le savais pas, ça. Moi, je n'ai pas dit « je veux être conteuse ». Et peut-être que quand j'ai commencé, j'ai eu cette espèce de
d'intuition
ou d'impression, en tout cas, qu'en faisant ça, j'étais vraiment là, quoi. Mais en étant... hyper maladroite au début. Enfin, moi, j'y connaissais rien, quoi.
Puis en t'écoutant, je me dis que peut-être tu proposes ça aussi aux gens qui t'écoutent, parce qu'en réalité, ce que nous transmet une conteuse ou un conteur quand on écoute une histoire, si on n'est pas vraiment là, franchement, il reste rien.
Ouais.
Tu vois?
Imaginez, vous êtes assis sur un banc avec un papy, une mamie, quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, qui est là, quoi. Puis vous lui dites, c'était comment quand tu étais jeune? Et le moment où la personne se souvient, ce moment-là, c'est déjà conter l'histoire. Et cette qualité-là de présence à son propre souvenir... Parce que, bon, c'est pas moi qui le dis, compter, c'est se souvenir de quelque chose qu'on a vraiment vécu dans l'imaginaire. Ou qu'on est en train de vivre. Au moment où on le compte, on se souvient de quelque chose. Enfin, moi, ça me parle, ça. Moi, quand j'accompagne des jeunes conteurs ou des gens qui veulent découvrir, je les fais aller dans des souvenirs. Par exemple, je les fais travailler sur... on va prendre la structure de Blanche-Neige. Il est hyper simple, Blanche-Neige. Hein, les éléments du conte sont hyper simples. 3 parties. 1, 2, 3. Hein, donc, la fuite, l'accueil chez les
nains.
Chez là, l'empoisonnement et puis la résurrection. Quoi. Et en fait, j'aime bien leur faire ancrer les éléments du conte dans un souvenir... réel ou imaginaire. Du coup, j'ai entendu des versions corses, des versions bretonnes, des versions qui vont se passer dans quelque chose de très moderne, divers, et c'est toujours ancré dans quelque chose qu'on connaît. Et souvent, les versions les plus efficaces sont un mélange entre un souvenir réel et une espèce d'imaginaire qui vient aussi se proposer de par la structure du conte. Mais toujours, toujours, c'est fort parce que ça vient se frotter à quelque chose que la personne, elle connaît. Et la dernière version d'une jeune femme qui s'appelle Mariushka, mais elle m'a fait pleurer tellement c'était beau. Elle, c'est une fille qui a vécu dans la forêt, qui dort dans la forêt régulièrement, qui connaît les plantes. Elle a fait une version de Blanche-Neige avec les plantes, avec et comment. Mais c'est, elle m'a émue parce que tout était juste. Tu pouvais pas dire qu'elle connaissait pas ce qui s'était passé. Tout était juste. C'était très très beau parce que c'était concret en même temps. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le conte. Et notamment le conte merveilleux, c'est que plus ça se rapproche de choses vraies, plus le merveilleux prend sa place.
C'est ça qui est étonnant, ouais.
Et plus c'est merveilleux, plus le vrai est mis en valeur, quoi. La vérité du conte est mise en valeur.
C'est un vrai paradoxe.
Ouais.
C'est un vrai paradoxe, ouais.
L'astrophysicien Hubert Reeves, qui était sans doute aussi un peu conteur sur les bords, disait que devenir adulte, c'est apprendre à vivre, sans trop souffrir, dans le doute et l'incertitude. Cela a plu à Florence Ferrin, et d'une certaine manière, cela l'a engagée sur les chemins du conte. Conter, c'est chercher ensemble.
Poussière d'étoiles, ça m'a ouvert une porte. Et puis j'aimais beaucoup entendre Hubert Reeves parler du ciel, des étoiles, de l'univers, et aussi entendre qu'il ne savait pas tout. Moi, j'aime pas les conteurs qui savent. On est beau quand on ne sait pas ensemble.
Ben oui.
Et quand on cherche, si on sait, on est chiant, on dit des vérités, c'est pénible, quoi, parce qu'on devient plus important que l'autre. Et ça, c'est pas bien, parce que ça évite la rencontre, en fait. Si on ne sait pas, ben on reste faillible et humain, et on cherche ensemble, c'est encore plus beau. Et c'est ça qu'on fait quand on raconte des histoires, on se permet, et on permet à des gens de chercher avec nous, on cherche tous ensemble.
Et en plus de se dire, et on ne trouvera pas une solution.
Non.
C'est
une
question insoluble, mais on aura fait du chemin ensemble.
On aura fait du chemin. C'est ça qui est beau.
C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons quitter les collines et les lacs du Limousin et nous allons rentrer à la maison. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la réécouter ainsi que ses 150 petites sœurs sur le site c'estpaspourdire.fr. Et si elle vous a donné envie d'écouter des contes, des conteurs, des conteuses, qu'à cela ne tienne, il existe encore dans le monde entier des lieux où venir partager des histoires et des artistes engagés sur le chemin de la parole, tous, toutes différents. Il ne tient qu'à vous de les découvrir. En attendant, ciao!
C'est pas pour dire, était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
of a dream.